et bonjour. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager quelques messages et informations importants. Le premier, c'est merci. Merci, je le répète souvent, pour l'oreille qui écoute. Je ne sais pas si vous êtes dans le métro, dans votre lit ou en train de cuisiner, mais peu importe, merci. La seconde chose que je voulais dire, c'est que si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez écouté certains épisodes précédents, vous savez que j'ai quitté mon emploi pour me lancer à mon compte. Non pas par opposition au monde salarié, hein, mais plutôt par besoin viscéral d'oser réaliser ce qui était devenu une évidence, et plus précisément deux activités, avec pour fil rouge les mots qui racontent des histoires et qui sèment des idées et impacteront au moins une personne, j'espère, d'une part en tant que consultante en communication et stratégie de contenu et rédactrice SEO, du coup mention spéciale pour les sujets autour de la santé, de la psychologie, de la nutrition et de la sexualité. Et ensuite, les mots pour aider d'autres personnes à rayonner par des suivis personnalisés réunissant mes connaissances en psychologie et en trauma, le tout infusé par une approche globale mêlant énergétique, tantra, polarité féminine et masculine, blocage émotionnel et outils somatiques sur lesquels je me forme depuis quelques temps. Et en vue de cette activité-là, j'ai créé un compte Instagram dédié et un nouveau podcast, Les mots, c'est bien beau, aux côtés de Pierre Kessial. Et je serai infiniment reconnaissante si vous prenez 2 minutes de votre temps pour répondre à un court sondage qui m'aidera justement à m'aligner aux besoins et challenges d'un maximum de personnes et qui vous concerne peut-être dans votre vie personnelle pour proposer justement des accompagnements réellement efficaces. Donc vous avez les liens de l'autre compte Instagram et du sondage dans la description de l'émission. Donc merci infiniment si vous prenez ces 2 petites minutes pour y répondre. Et pour terminer ce message, j'aimerais juste vous dire une phrase qui réunit un peu toute l'idée et tout ce qui m'anime. Raconter une histoire, c'est surtout raconter celle de quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui sera galvanisé par l'énergie perçue à travers ces mots-là. Voilà, je crois que c'est un bon résumé du fil rouge de ce vers quoi je vais et ce qui m'anime. C'est tout pour moi et du coup, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Il existe une maladie qui touche sans prévenir, qui change beaucoup de choses chez les personnes atteintes, mais surtout chez leurs proches. Une maladie dite dégénérative à cause de laquelle on en vient à ne plus savoir où l'on est, de ce qu'on a fait il y a 5 minutes, à ne plus reconnaître ses proches, à ne plus se reconnaître soi, à avoir des comportements étranges, incompris. L'Alzheimer en chiffres, c'est environ 1 million de personnes touchées en France. Il s'agit donc de 8% des Français de plus de 65 ans qui seraient atteints en 2020. Par ailleurs, on estime que 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. Et encore aujourd'hui, seule une démence sur deux serait diagnostiquée. Mais il y a un sujet encore tabou autour de cette maladie, la question de la sexualité. Et les premières personnes touchées par les problèmes qui y sont liés sont les aidants, les proches de la victime, qui subissent de plein fouet les désagréments liés à cette maladie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Coeff, psychologue spécialisée dans la maladie d'Alzheimer, avec qui nous allons parler en long et en large de cette pathologie encore taboue, mais aussi des questions qu'elle soulève. Bonjour Christelle, pour commencer, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie.
Bonjour Marie. Eh bien, je suis psychologue et je suis spécialisée dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes âgées. Donc, je travaille dans un milieu hospitalier et aussi avec des associations et des organismes de formation pour professionnels afin de pouvoir toujours réfléchir et un meilleur accompagnement des personnes âgées, en général de plus de 65 ans, avec une moyenne d'âge autour de 80 ans. Voilà.
D'accord. Donc, tu es psychologue et il t'arrive en tout cas d'avoir affaire au sujet de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que tu peux... Bon, on connaît tous plus ou moins ce que c'est, mais je pense que c'est important de recontextualiser. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette pathologie et nous donner quelques chiffres si tu en as ?
Oui, la maladie d'Alzheimer, en chiffres, comme tu l'as dit déjà en introduction, c'est à peu près 1 million de personnes qui sont touchées en France par cette maladie, donc ça quand même représente un pourcentage non négligeable. C'est une maladie qui peut toucher les personnes de 65 ans et plus, et ça, pour la tranche d'âge de 65 ans, c'est à peu près 3% de cette tranche d'âge. Elle augmente par contre rapidement pour atteindre plus de 20% de la population âgée de plus de 80 ans. Donc les personnes qui ont cette maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative, donc qui va évoluer sur des années, qui peut durer 10 ans, voire même plus, et qui va engendrer différentes difficultés, des difficultés attentionnelles. Au début, c'est des petites choses, hein, c'est mince de pas faire attention. Et puis, au fur et à mesure, la personne va se rendre compte qu'elle a plus de mal à s'orienter dans le temps et dans l'espace. Elle va avoir des difficultés de mémoire. Alors, on a tous des problèmes de mémoire de temps en temps. Et puis, ça nous revient après coup. Tandis que là, la personne, plus ça va, plus elle aura des difficultés à se souvenir parce qu'elle aura des difficultés à mémoriser. Et donc, ça va entraîner des difficultés dans son quotidien. Donc, ces personnes-là, elles sont... plus concernés dans une population autour de 80 ans. Il faut savoir aussi qu'il y a des malades jeunes qui peuvent être touchés, donc de moins de 65 ans en France et partout ailleurs d'ailleurs. Cette maladie d'Alzheimer, elle n'est pas héréditaire. Hein. Principalement, il faut savoir qu'elle n'est pas héréditaire dans 99% des cas. Mais il y a un petit pourcentage où il y a un terrain familial et souvent, ce sont les malades jeunes qui sont plus concernés. Donc cette maladie, c'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle va engendrer une mort des neurones dans le cerveau et ça va se faire progressivement et c'est ce qui fait que au début la personne va pouvoir, son cerveau est une superbe machine, donc elle va pouvoir compenser jusqu'à un moment où elle n'arrivera plus à compenser et les lésions cérébrales vont engendrer des difficultés dans son fonctionnement dans le quotidien. Voilà, c'est la maladie d'Alzheimer.
D'accord, bah écoute, c'est très clair. C'est une maladie que moi, personnellement, je connais pas. J'ai heureusement, je touche du bois, aucun de mes proches n'est concerné, mais effectivement, ça touche quand même une grande partie de la population. Alors, parmi toi, tes missions, il t'arrive d'animer des groupes de parole destinés aux aidants, qui sont du coup souvent des proches des malades, que ce soit la famille, les conjoints. Quel est le rôle de ces groupes de parole ?
Alors, accompagner une personne qui est malade de cette maladie d'Alzheimer, ça peut parfois plonger les familles vraiment dans l'isolement et le désarroi. Parce que, alors, on entend parler d'Alzheimer dès qu'on se dit « Oh là là, je perds la mémoire, aïe, c'est un Alzheimer qui débute hein, ». On peut être nombreux, surtout en avançant en âge, à se poser la question. Mais ça ne touche pas tout le monde. Toutefois, quand une personne est malade, à qui on en parle ? D'abord, c'est le médecin, et puis ensuite, il y a des spécialistes, et puis ensuite, comment on fait dans le quotidien, surtout pour gérer, parce qu'une fois que la diagnostic est posée, c'est bien joli, Mais comment on fait pour vivre avec une personne qui perd de plus en plus ses capacités à fonctionner dans son quotidien, qui ne retrouve plus les choses, qui répète plusieurs fois les mêmes questions, qui n'arrive plus à s'organiser, à prendre des décisions tout seul, qui parfois a des problèmes de langage aussi. Donc, ces groupes de parole, ce sont des groupes que France Alzheimer, c'est une association qui est répertoriée, qui est installée sur le territoire français et outre-mer. Et cette association France Alzheimer, elle existe depuis plus de 20 ans et elle propose gratuitement, et ça c'est important aussi, des groupes de parole, notamment avec, elle propose aussi d'autres choses, mais elle a mis en place et elle propose des groupes de parole dans les antennes départementales de France Alzheimer, ce qui permet d'être au plus proche des personnes. C'est une volonté aussi de l'association. Des groupes de parole, des espaces qui sont réguliers, une fois par mois, et qui sont animés par un psychologue et une bénévole, où les personnes qui accompagnent donc des malades peuvent venir et se retrouver avec d'autres personnes et où ils vont pouvoir échanger sur leur quotidien, sur leurs interrogations, sur leurs ressentis, sur leur vécu. Donc ça offre vraiment un espace de soutien et d'écoute à l'intérieur duquel les aidants ils vont se rencontrer et puis ils vont échanger avec des personnes qui vivent plus ou moins, en tout cas sensiblement, les mêmes choses qu'eux. Hein. Mmh. Ça permet de rompre l'isolement vraiment et d'avoir des réponses, avoir un soutien et de ressortir là un peu plus revitalisé par rapport à ce qu'ils peuvent vivre dans leur quotidien. Et puis à échanger aussi des trucs et astuces. Voilà, donc ces groupes de parole, ils sont à un rythme régulier, une fois par mois, ça dure 2 heures, psychologue et bénévole, et c'est quelque chose qui est libre, les gens sont libres de venir ou pas, il n'y a aucune obligation.
D'accord, je pense que c'est hyper important, surtout pour les aidants, parce que finalement, ils ont la place la plus délicate, parce que dans une certaine mesure, au bout d'un moment, le malade, je suppose, ne se rend pas forcément compte de son état. Peut-être que dans les premiers temps, il s'en rend compte, mais oui. Peut-être plus tard, il s'en rend un petit peu moins compte. Et du coup, ça devient important finalement que les aidants puissent aussi bénéficier d'un soutien, parce que c'est eux qui sont sur la première ligne, quoi.
C'est ça, quand c'est au sein d'un couple, quand le conjoint ou la conjointe ou partenaire est malade, toutes les discussions ou toutes les décisions qu'on prenait d'ordinaire à deux, là maintenant, plus ça va aller, plus la personne qui va aider va devoir décider seule. La personne malade ne pourra plus être en mesure de raisonner et de porter des jugements adapté au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, ça va devenir de plus en plus difficile. Donc les conjoints-conjointes, les partenaires, ils se sentent souvent très seuls pour gérer tout le quotidien. Et puis quand ce sont les enfants, c'est pareil, ils font leur vie. Hein. Quand on est enfant, on grandit, on laisse nos parents, on vole de nos propres ailes. Et puis là, on se rend compte que nos parents perdent en autonomie, deviennent plus vulnérables, sont plus en difficulté dans la gestion du quotidien. Et donc, quand parfois on est soi-même parent de nos adolescents, il faut aussi s'occuper de nos parents. Et c'est une difficulté de vie qui vient de se rajouter. Et tout ça, les personnes, elles ont besoin de pouvoir trouver un lieu, un espace où elles pourront un petit peu déposer les choses et se retrouver entre personnes qui comprendront tout à fait ce qu'elles vivent.
Je vois. Alors, il y a un des sujets assez tabous de la maladie d'Alzheimer. Enfin, moi, en tout cas, c'est une partie de la maladie dont j'avais jamais entendu parler. Mais c'est un sujet finalement tabou aussi de la vieillesse et du sujet âgé, c'est la sexualité. On parle assez peu de la question de l'intimité dans le cas de la maladie, et pour cause, il s'avère que les malades peuvent développer des comportements déviants en matière de sexualité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des problématiques que rencontrent les malades et les aidants en matière de sexualité ?
Oui, alors c'est vrai que la sexualité, c'est un sujet qui reste encore largement tabou aujourd'hui. Quand on parle en plus de la sexualité des personnes âgée. Alors, bon, on a un peu l'impression de cumuler les sujets délicats à aborder. Si à ça, on rajoute la maladie d'Alzheimer, voilà, ça commence à faire beaucoup. Déjà, dans le cadre d'un vieillissement normal, il faut savoir que le désir perdure toute la vie. Hein. Ça, c'est quelque chose qui reste. Ce sont les moyens de réalisation qui baissent. Voilà. Mais ça n'empêche que la sexualité, elle ne s'arrête pas parce qu'on arrive à 65 ans et que notre société dit que bah, maintenant nous sommes des retraités et nous sommes du côté des personnes âgées. Donc, néanmoins, parler de sexualité et de vieillissement, c'est pas quelque chose déjà qui est facilement abordé. Et la maladie d'Alzheimer, oui, elle va avoir des conséquences sur la sphère affective, l'intimité et la sexualité de la personne et du couple. Avec la maladie d'Alzheimer, quand les personnes ont conscience de leurs difficultés, au début, ça peut engendrer des symptômes dépressifs, hein, le fait de se rendre compte de ces difficultés. Donc, quand on est déprimé, bah déjà, on sait bien que la libido baisse. On a moins de désir de façon générale. Et puis, ça, c'est en lien avec la dépression. Donc ça, ça se prend en charge. Et puis, la maladie, effectivement, elle va avoir un impact un peu qui va au-delà de la dépression. C'est que souvent, on observe une tendance à l'apathie, à un stade léger à modéré de l'évolution de la maladie. Les personnes, elles deviennent apathiques. C'est-à-dire que bon, y a plus trop d'élan vital, elles ont plus forcément envie, ce qui les intéressait avant les intéresse plus, et donc que ce soit les sorties, les visites, les relations sociales, les petits enfants et encore plus la libido, la sexualité, et ben tout ça ne les intéresse plus. Donc ça, c'est ce qu'on observe le plus souvent. Il y a une perte d'intérêt pour les choses, les centres d'intérêt, y compris le sexe. C'est le comportement le plus fréquent que l'on observe. Et à contrario, on peut par contre, parfois, alors c'est plus rare, mais ça arrive quand même, à l'inverse, voir des personnes qui ont des comportements complètement désinhibés, avec des besoins sexuels accrus, qui vont être très sollicitants auprès de leurs partenaires, mais pas seulement, parfois aussi auprès de d'autres personnes qui peuvent avoir des propos déplacés, des remarques ou des propos crus, déplacés, parfois des comportements inadaptés et avec une sollicitation comme ça, un besoin sexuel qui est hyper développé et qui n'est pas facile, l'un comme l'autre, qui n'est pas facile à accepter et à tolérer. Alors, quand la personne est dans l'apathie, c'est moins bruyant. Quand la personne est désinhibée, là, ça l'est beaucoup plus. Et là c'est dérangeant pour le partenaire, et puis c'est dérangeant pour toutes les personnes aux environs. Et donc ça, c'est ce que peut engendrer la maladie d'Alzheimer sur le comportement, le caractère sexuel, le comportement sexuel. A minima, les troubles cognitifs qu'engendre la maladie vont aussi engendrer donc des problèmes de mémoire. Et même s'il n'y a pas des comportements comme ça, désinhibés ou de l'apathie qui va venir s'installer, déjà on peut voir que quand même il y a des relations sexuelles qui perdurent dans le couple, et que la maladie est présente, eh bien, par exemple, ça va se traduire par l'homme ou la femme qui pourra avoir une sexualité active, mais qui va oublier les préliminaires, par exemple. Hein, tout ce qu'il y a autour de l'acte sexuel, eh bien, bah, tout ça va disparaître. Donc, c'est quand même pas non plus évident, parce que on a tous besoin d'une mise en condition la plupart du temps. C'est quand même c'est quelque chose qui participe à l'acte. Et là, on va voir que les personnes vont être surprises parce que les préliminaires qui étaient là auparavant ne sont plus là. La personne va plus prendre le temps de caresser l'autre, il y aura plus d'initiative de cet ordre-là. Ou alors, à contrario, quand la personne est plus sur un versant désinhibé, là par contre, elle pourrait proposer d'autres pratiques qu'elle n'aurait jamais osé auparavant, par exemple. Et c'est là où on va voir que il y a soit il y a quelque chose de l'ordre de l'inhibition, soit à contrario quelque chose de la désinhibition, où il y a une perte du contrôle habituel sur les actes et sur les sentiments, et ce qui va faire que les barrières et les interdits vont sauter, quoi. Et donc, dans le couple, bah, le partenaire peut être étonné, dans un sens comme dans l'autre, parce que bah, la personne avec qui il a pu avoir des relations depuis des années ou depuis longtemps, bah, là, devient complètement différente dans l'intimité, et ça peut générer des sentiments un peu... parfois de frustration, quand la personne n'a plus envie, elle peut se sentir rejetée, elle peut se sentir coupable de son propre désir et de ses propres besoins, ou de son absence de désir aussi, quand l'autre le sollicite trop, ou être gênée de cette demande, ou être agacée aussi de cette sur-demande, si je puis me permettre. Et voilà, c'est la maladie d'Alzheimer, oui, a un impact sur la libido et sur la sexualité des personnes.
C'est la question que je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce que le malade réalise, est-ce qu'il prend conscience que son comportement sexuel est problématique ? Parce que effectivement, tu le disais un petit peu au départ, il y a plusieurs stades dans la maladie. Je suppose qu'il y a les débuts où c'est très léger, puis plus tard où ça vient complètement handicaper la personne dans ses décisions, dans ses mouvements, etc. Mais est-ce que le fait d'en parler avec le malade, est-ce qu'il peut travailler sur ces difficultés, ou est-ce qu'entre guillemets, il n'y a rien à faire ?
Alors, c'est vrai que d'abord, c'est pas quelque chose, c'est des comportements qui vont s'installer au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Donc, c'est pas quelque chose qu'on retrouve spontanément dès le début de la maladie. Hein, faut savoir que l'évolution d'une maladie d'Alzheimer, ça peut s'installer sur 8 à 10, 12 ans. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qui spontanément se pose. Mais, en parler avec les personnes, c'est pas toujours évident parce que, alors, il faut en parler, ne serait-ce que pour que le partenaire voit que les choses sont abordées ensemble, pas qu'il n'y ait de non-dits ou de choses cachées ou de choses qui pourraient devenir honteuses. Néanmoins, la maladie d'Alzheimer engendre des troubles cognitifs. Elle engendre des troubles du raisonnement et du jugement. Ce qui fait qu'une personne qui est dans l'apathie, par exemple, elle peut entendre les remarques de l'autre, mais elle pourra pas faire autrement. Hein. C'est comme elle n'est plus armée, elle perd sa capacité justement à raisonner et à s'adapter, et donc avoir un comportement adapté à une situation. Donc on pourra lui en parler, mais c'est pas pour autant qu'elle sera en mesure de changer. Elle va répondre, les troubles cognitifs s'installent, tout ce qui est pensée, réflexion commence à s'altérer. Par contre, tout ce qui est ressenti et qui vient du corps, hein, les besoins, les pulsions, le ressenti, les sentiments, tout ça, par contre, ça reste préservé. Et la sexualité, les besoins sexuels, hein, ça fait partie des besoins de base de tout à chacun. Et donc, ce besoin, eh ben, il est d'abord, on le ressent physiquement, ce besoin, hein, quand on a envie, quand on ressent le besoin de ça, il y a quelque chose qui se passe intérieurement physiquement. Et la personne, elle va répondre à ça. Mais raisonnablement adapter son comportement en fonction d'autrui, en fonction de la société, là par contre, elle va être plus en difficulté. Donc on peut en parler. Au début, la personne, elle a souvent une conscience douloureuse, hein, de ses pertes de capacité. Et parfois d'ailleurs, elle ne veut pas en parler. Parfois, l'autre, l'entourage, a du mal à aborder le sujet, craint d'en rajouter un peu. Pour autant, je pense que, et on est plusieurs à penser que vaut mieux en parler, en tout cas proposer d'en parler, parce que ça permet de ne pas être dans le non-dit, de ne pas faire comme s'il ne se passait rien, ne pas faire comme si on ne voyait pas qu'il y avait un souci, et parce que ça, c'est souvent bien délétère. Mais quand la personne parfois n'a pas conscience de ses troubles, là c'est plus l'entourage qui est en difficulté. Il arrive parfois que les personnes soient dans la non-conscience, non-reconnaissance de leurs difficultés, et là on aura beau discuter, bah, elle n'entendra pas, hein, n'entendra pas que qu'elle est malade, puisque pour elle n'est pas malade, elle a aucun problème. Donc là, ça pose difficulté. Néanmoins, ces comportements qui peuvent être inadaptés dans le cadre de la sexualité, ou même dans d'autres domaines d'ailleurs, mais ça va être passager. Ce n'est pas quelque chose qui va s'installer et qui va durer tout le temps de l'évolution de la maladie. Mais ce sont quand même des passages qui sont difficiles à vivre pour la personne quand elle en a conscience et pour l'entourage, le conjoint et l'entourage. Oui,
ouais, mais c'est sûr. Mais, oui, donc en fait, finalement, on a beau en parler, ça ne résout pas le problème de fond qui est que la maladie s'installe quand même et il n'y a pas grand chose à faire. Mais est-ce que face à l'apathie, dans le cas où c'est de l'apathie, est-ce que face à cette apathie, ou d'ailleurs, que ça soit de l'apathie ou de la désinhibition, est-ce que l'aidant peut agir concrètement ?
Alors, quand la personne est plus dans l'apathie, il faut savoir que déjà, ce n'est pas une personne qui va s'ennuyer. Parce que parfois, les personnes, elles ont l'impression qu'elle est posée là et elle ne fait rien, elle doit s'ennuyer. Non, elle ne s'ennuie pas forcément. Hein. C'est surtout que ce qui l'intéressait avant ne l'intéresse plus, mais il n'y a pas forcément, ce n'est pas forcément synonyme d'une souffrance en plus, comme dans l'ennui, où là, on est, je ne sais pas quoi faire, etc. Donc, quand la personne est dans l'apathie et qu'elle ne va pas spontanément aller vers l'autre et qu'elle ne va pas spontanément être dans la démonstration d'amour ou d'affection, eh bien, on peut quand même préserver la tendresse, même si l'autre, même si son désir est émoussé, on peut le guider dans les gestes de l'amour, on peut l'aider s'il a oublié justement les gestes qui sont associés à tous ces préliminaires et à tous ces moments d'intimité. On peut prendre l'initiative de jeux qui permettraient d'être des préludes au rapport et être dans la tendresse et l'affection. Mais c'est vrai que ça va demander au partenaire d'être actif, hein. Elle ne pourra plus attendre que ce soit l'autre qui vienne vers lui ou elle. Ça va être à lui ou elle d'aller vers la personne malade. Quand par contre la personne est plus désinhibée, alors là c'est un petit peu différent dans le sens où si le partenaire peut répondre à ses besoins sexuels, parfois la question ne se pose pas. Parfois on peut voir que ils y répondent, et puis les retours que je peux avoir de personnes, c'est d'accord, au début je disais oui, mais il y a eu un moment où c'était trop, enfin puis moi j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à régler, à gérer, lui ou elle ne gère plus rien, et moi je suis fatiguée et je ne peux pas répondre toujours à ses besoins sexuels. Donc des fois il y a un sentiment où ils se sentent un peu harcelés par l'autre et ils ne veulent plus ou ils ne peuvent plus répondre aux besoins de l'autre. Donc là, c'est pareil, il va falloir se poser des questions, parce que une personne qui, par exemple, a un comportement désinhibé, et parfois, ça peut être mal interprété quand parfois l'exemple d'un monsieur qui est dans la rue, là, et puis avec sa conjointe, et puis qui va pour se déshabiller. Bah, c'est quand même pas du tout adapté, hein. Donc si il y a eu un caractère sexuel accru, des besoins sexuels exprimés auparavant, les questions vont se poser en se disant, mais mince, quand même, c'est pas adapté, il se déshabille dans la rue, il y a des comportements de désinhibition, enfin voilà, on crie, enfin, ça inquiète. Parfois, c'est pas forcément le cas. Parfois, ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est juste qu'il a envie d'uriner et que il a envie, donc il le fait maintenant. Voilà. Hein, il n'y a plus de convenance sociale. La désinhibition, c'est ça aussi. Il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus de convenance sociale. Et donc, du coup, j'ai envie de faire pipi. Je vais faire pipi maintenant. Voilà, tout simplement. Hein, je ne vais plus attendre, me poser la question, etc. Et ça n'a rien à voir, si j'enlève mon pantalon à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec un caractère sexuel. Donc, ça veut dire que l'autre doit aussi se poser des questions, parfois, sur les comportements qu'il peut observer. Parfois aussi, une hyper sollicitation à caractère sexuel, ça peut aussi cacher une grande anxiété. On n'est pas sans savoir que faire l'amour et avoir des orgasmes, ça a quelque chose de très plaisant et de très relaxant aussi sur le plan physique, corporel, hein, ça détend et ça libère plein de bonnes endorphines. Et donc, une personne qui est anxieuse et qui a la maladie d'Alzheimer, parfois, tout dépend aussi de son passé, de sa façon de gérer les choses, mais ça pourrait être aussi le moyen à disposition qu'elle a trouvé, alors qui s'exprime de façon pas toujours très adaptée, mais une façon de répondre à une anxiété qui est intérieure là et qui, pareil aussi, peut être très... très physique, hein, quand on est anxieux, on sent bien physiquement là, la boule au ventre, on ne se sent pas très bien, et voilà. Et pratiquer un acte sexuel à ce moment-là, ça permettrait de se détendre. Sauf que la personne, finalement, elle exprime cette anxiété par un comportement qui va être qualifié de trouble du comportement. Parce que un caractère sexuel inadapté et des comportements inadaptés, au lieu, parce qu'elle ne sera plus capable finalement de dire et d'expliquer et d'exprimer clairement, raisonnablement, de façon compréhensible, qu'elle est anxieuse.
Ouais.
Les troubles cognitifs vont faire qu'elle ne va plus être capable de dire « je suis anxieuse pour ci, pour ça, je suis préoccupée ». Par contre, ça va se traduire par un comportement qui va être qualifié d'inadapté, et notamment à caractère sexuel.
Oui, ouais, d'accord. Ouais.
Voilà. Donc l'autre va avoir besoin de patience et de comprendre aussi tout cela, pouvoir mettre des mots en tout cas sur tout ça.
Oui, d'où l'importance d'être entouré et d'avoir le moyen d'exprimer, notamment à travers les groupes de parole ou même les séances de psy, pour pouvoir justement en parler, parce qu'on doit quand même se sentir vachement seul dans cette situation.
Et oui, bah oui, et puis en plus, vu que la sexualité déjà d'office, ça a un caractère plutôt tabou, à qui je parle de ça, quoi, mon mari, qui a 80 ans, me sollicite matin, midi et soir pour faire l'amour, voilà, donc à qui j'en parle, quoi, enfin, c'est pas évident. C'est pas un sujet qui est facilement abordé, même au sein des groupes de parole, mais au moins, il y a un espace disponible si on veut aborder le sujet.
Mais alors, bon, du coup, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que la sexualité, c'est un élément hyper important dans le bien-être psychique et physique des personnes. Mmh. Quand il y a perturbation de la sexualité au sein d'un couple, quelles en sont, selon toi, les conséquences ?
Alors, la difficulté, c'est... Bah, déjà, tout dépend du couple et de quelle place la sexualité prenait déjà au sein de ce couple-là, avant, par le passé. Et ensuite, c'est comment continuer, souvent les préoccupations, c'est comment continuer à démontrer mon amour à l'autre. Parce que si la sexualité était quelque chose d'important dans une démonstration de l'affection qu'on a et de l'amour qu'on avait pour l'autre, quand la personne malade est sur un versant apathique, voilà, comment je fais ? Il va falloir apprendre à lui exprimer autrement, à trouver des équivalents, des compromis éventuellement, à partager autrement, mais il va falloir apprendre, voilà. Et puis le conjoint aussi, il a 75 ans, 80 ans, il va aussi lui devoir apprendre à exprimer et à fonctionner autrement, donc c'est pas quelque chose qui va de soi. Ça peut être une source de frustration aussi pour la personne. Ça peut être une question aussi au début, quand on ne comprend pas forcément ce qui se passe et que l'apathie s'installe, que la maladie d'Alzheimer n'est pas forcément diagnostiquée. On voit bien qu'il se passe quelque chose, mais quand le diagnostic n'est pas encore posé ou que la personne ne connaît pas forcément ce que peut engendrer cette maladie. Moi, j'ai entendu des personnes qui m'ont dit, après coup, qui se sont dit, mais en fait, moi, je me suis posé la question, il n'avait plus envie de moi, il ne venait plus vers moi, il ne me disait plus qu'il ne m'appelait plus ma petite puce comme avant, mais je me suis demandé s'il n'avait pas une maîtresse, mais pourtant, il ne sortait pas, je ne comprenais pas. Voilà, ça, c'est des préoccupations, peu importe l'âge, hein, les conséquences, c'est que il se pose des questions, je me dis, mais est-ce qu'il m'aime encore, quoi ? Est-ce qu'il y a encore des... Vu qu'il n'y a plus de démonstration, etc. Donc, ça, c'est... il y a des perturbations au sein du couple. Il peut y avoir aussi, quand la personne peut être désinhibée, c'est pareil, il peut y avoir une colère qui s'installe, une incompréhension, un rejet aussi. Il peut y avoir des séparations aussi, hein, à cause de cette maladie d'Alzheimer, pardon, qui engendre ces troubles du comportement parfois. On peut voir parfois des personnes... il y a beaucoup plus de divorces aujourd'hui, plus qu'avant, même dans la population, à un âge plus avancé, hein, aujourd'hui. Mais voilà, on sent bien que quand les personnes ont des comportements inadaptés, les partenaires sont en souffrance. Ils sont en souffrance parce qu'ils sont en colère contre leur compagnon, en colère contre la maladie, en colère contre le monde entier, contre le corps médical. Ils sont fatigués, ils sont épuisés. Ils ont beau comprendre, savoir que c'est à cause de la maladie, mais ils peuvent se sentir en colère et en même temps coupable de ressentir cette colère-là envers leur proche qui est malade. Donc, c'est des sentiments qui sont un peu mélangés. Il y a parfois cette question de l'infidélité aussi qui peut se poser. Moi, je vais rester, je suis là, je m'occupe de mon conjoint, de ma conjointe, mais j'ai quand même besoin d'affection, j'ai quand même besoin d'amour, j'ai quand même besoin de tendresse, j'ai quand même besoin de relations sexuelles. Et peut-être que si mon mari ou ma femme ne peut plus me l'offrir, peut-être que je vais trouver ça ailleurs. Mais je resterai quand même pour prendre soin de lui ou d'elle. Il y a des couples où les partenaires se disent soit je suis mariée pour le meilleur et pour le pire et je vais prendre soin de lui, d'elle, je vais m'en occuper et je vais tout faire pour lui et pour elle, jusqu'à parfois aller dans des soins du corps qui ne se posaient pas avant. C'est-à-dire que quand la personne est malade, avec l'évolution de la maladie d'Alzheimer, parfois les personnes n'arrivent plus à prendre soin d'eux, mais même physiquement, ça peut être des difficultés à prendre une douche, à se laver par exemple, ouais. Utiliser une douche, régler l'eau chaude, l'eau froide, arrêter les robinets, etc. Ça, on l'a appris tout ça quand on était enfant, hein, à faire les choses de façon ordonnée. Et puis les personnes désapprennent ça et donc finissent par ne se lavent plus. Alors, soit minimise en disant « Oh, j'ai pris une douche aujourd'hui, enfin hier, j'en prendrai une demain. Hein. » Ils essayent d'éviter, de banaliser, de minimiser. Enfin, la conséquence, c'est que moi, j'ai déjà une dame qui m'a dit, qui m'a rapporté que son mari se lavait plus. Et elle lui a dit « Écoute, mon coco, si tu refuses d'aller te laver, moi, je fais chambre à part. Hein. » Voilà. Comme ça, c'était clair. Donc, il y a tout ça aussi. Il y a des partenaires qui vont aussi être dans le soin jusqu'à aller aider leur conjoint-conjointe à faire leur toilette, jusqu'à leur toilette intime. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, refusent d'être dans ce rapport au corps, dans ce rapport aux soins du corps de l'autre, et qui veulent rester homme ou femme, conjoint-conjointe, mais qui refusent. On dit, moi, c'est hors de question que je donne la toilette à mon mari ou à ma femme. Voilà. Et donc, cette maladie d'Alzheimer, elle vient perturber vraiment le couple, vraiment dans son intimité physique, sexuelle, mais aussi physique, dans la relation aux soins du corps. Donc c'est vraiment complexe. Non,
c'est vraiment une maladie qui a des conséquences assez dramatiques, surtout pour les aidants finalement, qui se retrouvent dans une situation où... soit ils restent et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir pallier au manque que peut causer la maladie, soit ils disent « bon ben j'en ai rien à faire et je m'en vais ». Et dans les deux cas, ça va être hyper compliqué de voir aussi son ou sa partenaire se dégrader et ne rien pouvoir faire, parce qu'il n'y a aucun médicament qui existe finalement.
Non, alors c'est vrai qu'actuellement il n'y a pas de traitement curatif. Les chercheurs continuent de chercher, hein. Mais il n'y a pas de traitement curatif. Néanmoins, il y a quand même des choses à faire. Il y a des traitements symptomatiques. Quand la personne déprime parce que elle se rend compte de ses difficultés, etc., la dépression, elle est à prendre en charge. Si la personne est anxieuse, c'est pareil. On peut faire quelque chose pour la détendre. Ça peut être des traitements médicamenteux, mais ça peut être aussi tout l'environnement. Hein, vu qu'ils perdent leur capacité cognitive, mais ils sont toujours beaucoup dans le ressenti des choses, s'ils sont dans un environnement où leur conjoint ou leurs proches sont le plus serein possible et le plus détendu possible, ils le seront aussi. Hein, ça aura une bonne influence sur eux. C'est vrai que la maladie évolue et que oui, pour l'instant, on arrive un peu à la freiner, mais on ne l'arrête pas. Ça nécessite pour le partenaire, et ça l'oblige à gérer le quotidien, à anticiper l'avenir. On est parfois dans ce qu'on appelle un deuil blanc, c'est-à-dire qu'il faut faire le deuil de choses ou d'une personne alors qu'elle est encore là.
Ouais, je vois.
Et voilà. Et ce qui est difficile aussi, c'est que il y a plein de choses qui peuvent être vécues encore et heureuses et partagées. Néanmoins, la personne a à s'adapter quasiment au jour le jour. C'est-à-dire que ce qui va fonctionner aujourd'hui pour l'aider dans son quotidien, ce qui va fonctionner aujourd'hui va peut-être pas fonctionner demain. Donc, il faudra toujours s'adapter à un changement. Ce qu'on met en place aujourd'hui, ce qui fonctionne, et ben demain, dans une semaine, dans un mois, hop, il faudra changer. Et donc, les personnes aussi, les compagnons aussi, ils ont leurs âges, ils ont leur bobos, leurs difficultés aussi. Et ils ont en plus à penser et à anticiper et à gérer pour leur compagnon. Donc souvent, le risque aussi, c'est qu'ils s'épuisent. C'est qu'ils s'épuisent, qu'ils ne s'en rendent pas compte, qu'ils dépassent les limites qu'ils se sont posées. Moi, j'entends plein de personnes qui me disent « Moi, de toute façon, cette maladie, je sais qu'elle évolue, mais à partir du moment où je devrais l'aider pour la toilette, par exemple, eh ben là, ce sera terminé, je ferai les démarches peut-être pour avoir des aides à domicile ou peut-être que je penserai à le faire entrer dans une institution parce que ça, c'est ma limite. » Et bah finalement, le temps passe, les choses évoluent et cette limite, elle est repoussée encore et encore et encore. Et parce que nous aussi, on est capable de s'adapter et d'accepter beaucoup. Et donc, mais le risque toujours, c'est l'épuisement de l'aidant. Hein, et ouais. C'est pour ça que ces groupes de parole aussi existent, pour essayer de les préserver au maximum ou avoir un lieu pour leur dire... Attention, rendez-vous compte de tout ce que vous faites, de tout ce que vous gérez. Est-ce que vous pensez à vous de temps en temps? Est-ce que vous prenez soin de vous aussi? Parce que sinon, si vous ne prenez pas soin de vous, qui va prendre soin de votre proche si vous n'en êtes plus capable, vous n'êtes plus en mesure de le faire, quoi. Voilà. Et puis, on parle du conjoint, mais c'est vrai que les enfants aussi, par exemple, les enfants sont grands maintenant, mais ils sont déjà âgés eux-mêmes. Comme je disais, ils ont peut-être leurs ados encore à la maison. Il y a des fois aussi des renversements des rôles, hein, les positions de force changent. Voilà, le père patriarche avant qu'on ne contrariait jamais, qui maintenant a des difficultés cognitives et qui n'est plus dans cette position de force, il peut y avoir des renversements, des retournements de position où c'est l'enfant qui, là, va être en position de force et qui va décider par nécessité, hein, mais parfois aussi qui va imposer des choses. Enfin, c'est un mélange de règlement de compte parfois, de culpabilité, de souffrance, de petite joie, d'abandon, d'adaptation. C'est vraiment complexe. C'est vraiment une maladie qui touche quelqu'un, mais qui touche aussi tout le système familial, le couple et le système familial. Voilà.
Oui, mais c'est sûr qu'en plus, finalement, les aidants se retrouvent dans une situation qu'ils n'ont évidemment pas choisie. Ils ont toutes les conséquences de la maladie sans forcément avoir toujours les réponses adaptées, parce que comme c'est une maladie encore tabou, on n'en parle pas énormément, je suppose que c'est encore compliqué de trouver des structures adaptées, etc. C'est pas forcément évident, et puis on n'ose pas forcément aussi se tourner vers les bonnes personnes. Mais toi, quel conseil tu pourrais donner aux aidants justement pour les aider à surmonter ces difficultés?
Alors, c'est vrai que cette maladie, elle ne se voit pas. Quand on a une personne qui se casse une jambe et qu'elle a la jambe dans le plâtre, on lui demande pas de courir. Hein. Alors que cette maladie d'Alzheimer, comme les autres maladies dites apparentées, elle ne se voit pas. Donc du coup, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer déjà à la personne malade elle-même, si elle est en mesure de vouloir l'entendre, parce que ça, c'est encore autre chose. Il faut l'expliquer aux proches, aux conjoints, et aux familles pour qu'ils puissent s'adapter au comportement que les troubles cognitifs vont engendrer. Et il faut leur expliquer aussi, parce que elles vont rencontrer le jugement des autres. Voilà. Quand je prenais l'exemple là, de ce couple avec le monsieur qui se déshabille dans la rue pour aller faire pipi, l'autre, il y a des gens autour, hein, il faut expliquer, enfin, on est gêné, il peut y avoir des sentiments de honte, de gêne et de honte. Il n'y a pas de honte à avoir. Hein. La personne, elle n'a pas choisi d'être malade. L'autre est à côté et va l'accompagner, mais il n'y a pas utilité de se rajouter de la honte en plus de toute la souffrance que ça peut engendrer. Donc vraiment, il faut pouvoir l'expliquer aux personnes pour qu'elles puissent mieux comprendre les choses, déjà. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Qu'est-ce que ça peut entraîner? Comment elle va évoluer? Quelles sont les difficultés qu'ils vont pouvoir rencontrer? Mais aussi, quelles sont les choses qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent mettre en place pour que ça se passe le mieux possible? Ne pas rester seul. Vraiment, ne pas s'isoler, ça c'est vraiment le plus grand risque. C'est parce que, avant on avait plein d'amis, on sortait entre amis, on faisait des parties de cartes avec deux ou trois autres couples. Et puis, parce que la personne malade, soit elle a plus envie, soit au contraire, elle fait toujours des remarques inadaptées ou déplacées. On va limiter les sorties et les soirées cartes entre amis. Et la conséquence, c'est que on s'isole de plus en plus socialement, et le conjoint aussi s'isole, hein, donc il voit plus personne, moins de personnes, il discute avec de moins en moins de personnes, il se fragilise lui aussi, il s'épuise lui aussi. Donc vraiment, ne pas rester seul, ne pas s'isoler, ne pas avoir honte de cette maladie. L'association France Alzheimer notamment propose des groupes de parole, mais propose aussi des formations pour les aidants. Il y a d'autres organismes qui proposent ce genre de formation pour les aidants, mais France Alzheimer propose cette formation pour les aidants pour justement leur expliquer tout ça et puis répondre à des choses assez concrètes. Les troubles du comportement, qu'est-ce que c'est? L'entrée en institution, comment on fait? Qu'est-ce qui doit être préparé, pensé? Tout ce qui peut être autour du... Voilà, les troubles cognitifs en eux-mêmes, quels sont-ils? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Avoir plein de connaissances générales. Et puis, ça reste des formations qui sont gratuites aussi, encore une fois. Ouais, c'est important. Et ça permet de mettre du sens sur ce qui se passe. Hein. Et quand on met du sens, quand on réfléchit, quand on apporte de la connaissance et du sens sur les choses, ça permet de s'éloigner un petit peu du ressenti et du vécu. Hein. Il y a un mouvement comme ça entre le ventre, où on est dans le ressenti, dans le vécu, dans le sentiment, et l'élaboration, la réflexion, le sens qu'on va y apporter, où là, on monte vers le cerveau. Vous ne me voyez pas là, mais je fais ce mouvement d'ascenseur là, qui permet de s'éloigner un petit peu, du coup, à un temps en tout cas, de pouvoir s'éloigner un petit peu du ressenti, et pour pas être dans une trop grande souffrance, parce que il y a encore plein de choses à partager avec l'autre, mais faut-il encore continuer à prendre soin de soi et pas être continuellement dans une souffrance.
Mais je pense que même, là on parle de la maladie d'Alzheimer, mais je pense que d'une manière générale, dans toutes les pathologies où l'aidant a un rôle à jouer de soutien, d'aide, de support, je pense que dans toutes les maladies, il y a ce risque de s'oublier, il y a ce risque de se laisser dépasser et d'oublier en fait de prendre soin de soi. Et je pense que finalement c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pathologies.
Bien sûr. Oui. Et c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur la personne malade, mais parfois on oublie le proche et qui est lui aussi en souffrance et qui parfois ne s'autorise pas en plus à dire qu'il est en souffrance, parce que quand même c'est pas lui qui est malade, c'est l'autre. Voilà. Et donc des fois il s'auto-censure en s'oubliant, en se mettant de côté parce qu'il ne se sent pas légitime à exprimer cette souffrance parce que lui, c'est pas lui qui est malade. Oui. Néanmoins, on a bien remarqué qu'ils s'épuisent aussi et ils ont aussi, eux, besoin d'être soutenus pour pouvoir soutenir.
Oui, c'est sûr. Et est-ce que, ça fait quand même plusieurs années, je ne sais pas exactement combien, mais ça fait plusieurs années que tu travailles dans ce milieu-là, est-ce que tu vois une évolution dans la prise en charge de la maladie, peut-être une meilleure prévention, un meilleur diagnostic? Est-ce qu'il y a Et puis, bon, est-ce qu'il y a la possibilité quelque part, mais j'ai peu d'espoir, mais je pose la question quand même, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer les symptômes ?
Alors déjà, oui, il y a une évolution dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, parce que il y a déjà une meilleure connaissance par le grand public, hein. Il y a quand même plus de dépistages aussi qui sont réalisés. Il y a plus de sensibilisation du grand public et puis aussi de notre gouvernement. Alors l'association France Alzheimer notamment est porte-parole de toutes ces personnes-là auprès du gouvernement. Il y a des actions qui sont mises en place dans les associations départementales, par les bénévoles, par les professionnels. Bon, mais néanmoins, ça reste quand même, le constat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que moi je rencontre dans le cadre de l'association France Alzheimer me disent, mais en fait, au début, on m'a dit que mon partenaire, mon conjoint, ma conjointe avait possiblement cette maladie d'Alzheimer, m'ont posé un diagnostic et après c'était tout, quoi. Après, ils ne me disaient pas comment faire, comment ça allait évoluer, etc. Donc, il y a toutes ces personnes-là qui finalement, malgré toute cette sensibilisation au grand public, concrètement ne savent pas vers qui se tourner, vers où se tourner pour avoir des réponses pour le quotidien, parce que c'est bien beau d'avoir un diagnostic, mais après on en fait quoi ? Comment on fait pour vivre avec ça ? Et là, il y a encore beaucoup de progrès à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de personnes aussi qui sont dans l'errance du diagnostic, qui ne sont pas diagnostiquées, et il se passe des années avant que vraiment quelqu'un leur dise « bah oui, il est probable que ce soit une maladie d'Alzheimer ». Ah bon, d'accord, alors c'est peut-être pour ça, maintenant que j'y repense, que il y a un an déjà, il m'avait fait une crise parce qu'il ne retrouvait pas ses clés et qu'il m'avait accusé de les avoir prises, alors que non, il les avait rangées, mais si bien rangées qu'il ne les retrouvait pas. Enfin, voilà, des petites choses comme ça qui... après, on fait ce qu'on peut, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais parfois, les gens eux-mêmes banalisent, minimisent, mettent de côté. Je dis non, mais bon, il prend en âge, c'est la vieillesse, c'est normal qu'il y ait des problèmes de mémoire. Et parfois, non, il y a une errance, il y a un retard au diagnostic qui est encore assez présent. Alors oui, il n'y a pas de traitement curatif, comme je disais aujourd'hui, mais en tout cas, on peut agir sur les symptômes, vraiment. Hein, et on peut participer à... Déjà, les symptômes, ils ne sont pas fixes. Ils peuvent répondre à des réponses médicamenteuses, à des traitements médicamenteux, mais aussi, comme je disais, à des réponses non médicamenteuses, comme tout ce qui va être un environnement serein, des personnes formées autour d'eux qui vont pouvoir mieux comprendre et adapter leur relationnel à une personne malade d'Alzheimer, et ce qui permettra d'améliorer les symptômes. Une personne qui est anxieuse et qui fait les 100 pas tout le temps, par exemple, si vous la laissez dans son appartement enfermée, elle va s'agiter continuellement. Si par contre, et elle va pas être capable de vous dire pourquoi elle est agitée ou pourquoi elle est anxieuse, mais elle va s'agiter, ça va déranger, ça va être dérangeant. Par contre, si, plutôt que de lui donner un traitement, si tous les jours, si elle est capable de marcher, de se déplacer, ben on s'organise pour aller faire un tour dans le parc d'à côté ou dans le quartier, et ben voilà, peut-être que ça va l'apaiser, hein, parce que cette anxiété-là, elle a besoin de s'exprimer, ça passe par la marche, par une agitation motrice, et ben si on anticipe et que tous les jours, peut-être deux fois par jour, on va faire un tour de quartier ou dans le parc d'à côté, et ben ça va participer à apaiser la personne. Hein. Et là, il n'y a pas besoin de médicaments, voilà, ça répondra à son anxiété, ça l'apaisera. Donc on peut répondre aux symptômes. Mais c'est vrai que pour l'instant, donc on peut les améliorer, on peut mettre en place des choses, mais tout ça, ça s'apprend aussi. Voilà, ouais. Il y a des choses, on y pense de soi, et puis parfois, on a besoin qu'on nous les rappelle, surtout quand c'est nouveau, surtout quand on ne connaît pas tout ça. Et, voilà, on a parfois besoin d'aide et de l'entendre.
Et est-ce que, je sais pas où est-ce que j'avais déjà vu ça, mais il existe, tu sais, des exercices... de mémorisation, de calcul, etc. Est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire ce genre d'exercice-là avec l'âge pour ralentir l'apparition de ce genre de soucis, ou ça ne sert à rien ?
Alors si, ça sert, on ne peut pas dire que ça ne sert à rien. Néanmoins, on vieillit comme on a vécu. C'est-à-dire que si toute notre vie, on a été, on s'est intéressé à des choses, on a été dans le relationnel, voir des amis, faire des sorties, aller, je sais pas, au musée, faire des expos, voir un concert, se promener, avoir une activité physique et faire travailler son cerveau, eh bien, déjà, ça peut participer à préserver l'arrivée et la déclaration de la maladie d'Alzheimer, déjà. Parce que toutes ces activités-là, physiques, intellectuelles, relationnelles, eh ben, vous participez à multiplier les connexions neuronales dans notre cerveau, à engendrer une certaine plasticité. Et avec, quand la maladie d'Alzheimer va venir, ça ne va pas l'empêcher de venir, si elle doit être présente, mais néanmoins, on va en voir les effets plus tardivement.
Voilà. D'accord.
Ouais. Voilà. Donc ça c'est important, mais c'est vrai que si on commence, par contre, si on n'a jamais fait d'exercice de stimulation de la mémoire, parce que la mémoire on s'en sert tous les jours hein, en fait, hein, mais si vraiment on n'a jamais pris l'habitude de faire travailler sa mémoire et que à 80 ans, à 75 ans, on vous propose des exercices, alors oui, ça va avoir un intérêt dans le sens où on fait quelque chose, où on valorise la personne, où ça lui permet de se rendre compte qu'elle est quand même capable de faire des choses, hein, qu'elle n'est pas que en difficulté. Donc ça, c'est important. Et de voir, parfois, lui proposer de faire quelque chose, ça veut dire aussi qu'on peut faire quelque chose. Néanmoins, ça va permettre de maintenir, ça peut permettre de maintenir, mais ça n'empêchera pas, de toute façon, la maladie de continuer à évoluer.
Malheureusement, mais est-ce que toi, en tant que psychologue, est-ce que tu aurais un message à transmettre à toutes les personnes qui nous écoutent et qui s'inquiètent peut-être des conséquences de la maladie d'Alzheimer, que ce soit les aidants comme les patients ?
Oui, alors déjà, bon, la recherche est active hein, pour au moins limiter l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Il y a des choses qui sont prometteuses, et voilà, donc faut pas se désespérer. Après, c'est vrai que un diagnostic précoce peut permettre des fois de mettre un nom sur des situations, sur des vécus, sur des symptômes, pour éviter de, après coup, se dire, oh là là, j'aurais peut-être pas dû, ah mais je savais pas, c'était peut-être à cause de ça. Voilà. S'épargner aussi de toute culpabilité, parce que ça, c'est quelque chose que souvent les proches se rajoutent et c'est une souffrance supplémentaire. Peut-être dire les choses, hein, si partager les choses avec la personne malade. Hein, la personne malade, au début, elle est capable de se rendre compte. Elle n'est pas toujours dans la non-reconnaissance de ses difficultés. Et puis, c'est la principale concernée, donc elle est partie prenante. Donc, à elle aussi d'être consultée au maximum pour qu'elle se sente impliquée et qu'elle se sente pas exclue, rejetée ou parfois honteuse de ses propres difficultés. Et puis, l'association France Alzheimer, vraiment, j'insiste, elle est présente sur tout le territoire français et sur les DOM-TOM. Hein, c'est à peu près 101 associations qui est disponible à proximité. Il y en a forcément une dans votre département. Donc, regardez sur le net, appelez, et puis vous aurez des entretiens gratuits, psychologiques avec des psychologues. Vous aurez quelqu'un pour vous orienter, pour vous donner de la documentation, pour vous dire tout ce qui est disponible à proximité de vous sur votre territoire pour pouvoir ne pas rester seul. Hein, parce que, comme je disais, cette maladie, elle ne va pas toucher qu'une personne, elle va vraiment toucher tout un système familial. Et donc, vraiment, il faut apprendre à vivre avec, parce qu'il y a de belles choses qui peuvent toujours être vécues. Hein, ça va évoluer, certes, mais sur des années, et il y a plein d'autres choses qui vont pouvoir être vécues. Quand une personne est malade d'Alzheimer et qu'elle n'a plus la mémoire et qu'elle n'arrive des fois plus à trouver ses mots pour parler, on va plus pouvoir échanger avec elle comme avant et tenir de longs discours, de faire de grands débats. Mais on peut peut-être se poser et écouter la musique qu'elle aimait avant et qu'elle aime toujours. Je sais pas, partager un moment où on va écouter, je sais pas, un morceau de jazz parce qu'elle aimait ça. Et ça peut être un moment agréable aussi. Hein, c'est un moment de partage aussi, mais autrement. Voilà, donc tout ça peut être vécu, mais ça nécessite de réapprendre à partager avec l'autre différemment. Voilà.
Mmh. Oui, je vois, c'est tout un apprentissage où finalement, c'est repenser la vie différemment avec cette pathologie qui a malheureusement des effets définitifs sur la manière de raisonner de la personne. Ça demande, je pense, une très grande force de résilience pour les aidants d'accepter de ne pas pouvoir agir, en fait, concrètement. Enfin, de pouvoir agir à leur hauteur, mais sans que ça puisse guérir l'autre, en fait.
Oui, il y a plein de petites victoires, voilà. Il y a plein de petites victoires dans le quotidien, mais c'est vrai, mais sur le long terme, ça évolue. Ça, on peut pas le nier, ça évolue. Mais il y a quand même plein de petites victoires.
Comme toujours, j'ai une dernière question que je pose à chaque fois. Que t'évoque la phrase « Sois sage et parle fort » ?
Ah, alors moi j'ai entendu « sage », ça ne veut pas dire être effacé, vraiment. Et donc, ça veut dire pouvoir quand même se donner les moyens de s'exprimer, parler. Et aussi, j'ai entendu, nul besoin de crier pour se faire entendre. Voilà. Mmh. Mais surtout, ne pas se taire. Voilà.
Ouais, je
sais pas pour moi ce que ça veut dire. Sois sage et parle fort.
Ben, merci. J'aime toujours écouter les interprétations de chacun et chacune. C'est toujours hyper intéressant. Oui, l'idée, c'était vraiment de parler fort sans avoir honte de sujets qui peuvent parfois déranger.
Oui.
Je pense que c'est hyper important pour dédramatiser, justement. Et c'est notamment le cas de la maladie d'Alzheimer. En tout cas, je te remercie d'être venue. J'espère que cet épisode aura intéressé les personnes qui nous écoutent, d'en savoir un peu plus sur cette maladie, de la dédramatiser aussi. Donc, c'est certes très handicapant, mais ça n'est pas une fin en soi. Donc voilà, je mettrai le lien vers le site de France Alzheimer pour que les personnes puissent, si elles en ont le besoin, se renseigner.
Mmh.
Donc merci. Voilà. merci encore d'être venue. C'est jamais facile de parler derrière un micro, c'est jamais évident.
Mmh.
Et je souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sages, un peu, mais parlez fort. Beaucoup.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.